Mondial Sport sur RFI. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mondial Sport, votre condensé de l'actualité sportive qui fait encore la part belle à l'athlétisme et au championnat du monde à Doha. À 24 heures du tombé de rideau, encore une belle soirée américain et jamaïcaine, intouchable sur les relais 4x100 mètres, des finales de triple saut féminin et de poids masculin de haut vol, mais aussi la victoire trouble sur 1500 mètres d'une des protégées du controversé Alberto Salazar, un entraîneur suspendu par l'autorité antidopage américaine. Le football, le Real Madrid a longtemps tremblé, mais a finalement gagné son duel au sommet du championnat contre Grenade, et c'est un peu par hasard, par Eden Hazard, le Belge, chèrement payé à l'intersaison mais toujours efficace jusqu'à aujourd'hui, inefficace jusqu'à aujourd'hui, lui est chargé de relancer une sélection de RDC traumatisée après son élimination de la CAN. Christian Tsengui Mbembe a 6 mois pour convaincre, entretien à suivre dans l'actu Afrique. Première mission accomplie pour l'Angleterre en Coupe du Monde de rugby, le 15 de la Rose a validé son billet pour les quarts de finale grâce à une victoire bonifiée sur l'Argentine. Où on sont les autres nations? Le point avec Cédric De Oliveira. Enfin, le sport sénégalais va bien mal. Ce n'est pas un constat personnel, mais celui d'un observateur avisé, l'un des hauts responsables d'un club phare du championnat de football. Argent, équipement de qualité, politique globale, tout manque, mais il y a des moyens de rebondir, nous expliquera Mathieu Chupin. Avant-dernière journée, donc, avant extinction définitive des projecteurs du Khalifa Stadium de Doha pour les mondiaux d'athlétisme. Pas de record du monde comme hier, mais ne faisons pas la fine bouche. La soirée a tout de même été riche en coups d'éclat. Soirée que va nous résumer l'un de nos envoyés spéciaux, Christophe Jousset. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Avec d'abord la performance qui fait parler, à la fois historique et polémique aussi, celle de la néerlandaise Sifan Hassan qui remporte le 1500 mètres après avoir gagné le 10 000 mètres. C'est du jamais vu.
Oui, tout simplement du jamais vu. Personne n'avait jamais gagné dans un même championnat, que ce soit au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques, à la fois le 1500 et le 10 000 mètres. C'est un grand écart en quelque sorte, réussi par Sifan Hassan, avec la manière en plus et un chrono époustouflant, 3 minutes 51 secondes 95 centièmes sur ce 1500 mètres. Elle devient la sixième performeuse mondiale de tous les temps sur une distance, et en devançant de plus de 2 secondes la championne du monde en titre, Faith Kipyegon, la Kenyane, qui se contente donc cette fois de la médaille d'argent. La troisième place est pour Gudaf Tsegay, l'Éthiopienne. À noter que tout le podium est sous les 3 minutes 55. C'était vraiment un 1500 mètres, peut-être même le 1500 mètres féminin le plus relevé de toute l'histoire. Vous le disiez, vous le rappeliez, Christophe, parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Sifan Hassan appartient à l'écurie Alberto Salazar, le fameux Oregon Project, dont le chef de file Salazar, l'entraîneur, ancien marathonien reconverti entraîneur de très haut niveau, eh bien a été suspendu pour 4 ans par l'agence antidopage américaine il y a quelques jours, suite à des accusations, suite à une longue enquête menée par Travis Tygart, le patron de l'USADA, l'agence antidopage américaine, et qui a conclu à la responsabilité de Alberto Salazar pour incitation au dopage.
L'ombre encombrante d'Alberto Salazar, Christophe, qui accompagne aussi un bout du podium du 5000 mètres féminin, où là, le Kenya a fait coup double.
Oui, parce que maintenant tout le monde connaît à peu près par cœur la composition du groupe d'Alberto Salazar, et il y a aussi maintenant Constanze Klosterhalfen, une Allemande, une jeune Allemande qui a réussi la prouesse aujourd'hui de grimper sur le podium du 5000 mètres féminin. Elle est au milieu d'une série d'athlètes kényanes ou éthiopiennes, bien connues pour être dominatrices sur cette distance, et là elle dénote un petit peu au milieu d'elle avec cette troisième place. Derrière, donc, deux Kenyanes qui ont réussi le doublé, Hélène Obiri, qui conserve son titre, et Margaret Kipkemboy, qui prend la médaille d'argent sur ce 5000 mètres. Donc.
Autre performance historique au poids masculin, incroyable concours, très dense, où le titre s'est joué pour un petit centimètre.
Oui, et là encore, vraiment, c'est un concours d'une densité phénoménale. Joe Kovacs, l'Américain, l'emporte avec un meilleur lancé à 22 mètres 91. C'est le record des championnats du monde. Il devient le troisième performeur mondial de tous les temps. Et il devance pour 1 cm ses deux poursuivants. Ryan Crozer, l'Américain, 22 mètres 90, nouveau record personnel, évidemment. Et Thomas Walsh, le Néo-Zélandais, 22 mètres 90 aussi. Russie et record d'Océanie.
On revient à la piste, Christophe, on en vient aux deux relais 4 fois 100 mètres. Là, on va dire que c'est du classique, hein. Jamaïcaine et Américain ont raflé la mise.
Oui, les Jamaïcaines avec Shelly-Ann Fraser dans le rôle de deuxième relayeuse. C'est sa deuxième médaille d'or d'ailleurs pour Fraser dans ces championnats du monde après l'or du 100 mètres individuel. C'est Asher Smith qui a contribué aussi à la médaille d'argent des Britanniques. Asher Smith, vice-championne du monde en individuel sur 100 mètres, championne du monde sur 200 mètres et donc vice-championne du monde sur le 4x100. La troisième place est pour les Américains. Chez les garçons, eh bien, les Américains ont été les plus rapides avec un relais de folie, on peut le dire. Coleman, champion du monde du 100 mètres. Gatlin, l'ancien champion du monde désormais du 100 mètres. Et Lyles, pour terminer, lui, champion du monde ici sur 200 mètres. Ils ont couru très vite, 37 secondes 10, devant les Britanniques qui battent le record d'Europe, devant les Japonais 3e qui battent le record d'Asie. Les Sud-Africains se sont contentés de la 5e place. Ils ont été un petit peu moins vite qu'hier. Dlodlo, Magakwe, Muniai et Simbine à 8 centièmes de leur record d'Afrique établi hier. Et puis les Français, eh bien les Français se sont perdus et ils se sont perdus d'entrée dès la première transmission. Mauvais passage entre Golitin et Vico. Le bâton est même tombé sur la piste, ce qui fait que Christophe Lemaître, qui avait été titularisé pour finir ce relais 4 x 100 mètres, n'aura pas du tout couru ici. Il était remplaçant en série du 4x100. Il avait renoncé aux 200 mètres en individuel. Et Antoine Grenier a recueilli la réaction d'un homme qui était un peu frustré quand même, Christophe Lemaître.
J'ai pas fait de mauvais résultats vu que j'ai pas couru. Donc non, c'est un peu le jeu quand tu fais que le relais. Hein. On attend que le témoin arrive. On prie pour que tout se passe bien jusqu'au moment où ça nous joue. Donc quand on est derrière l'heure, on attend toute la course et en espérant que le témoin arrive jusqu'à toi et que tu arrives à l'avoir. Mais ce relais a encore pas montré ce qu'il était capable de faire vraiment, parce que je reste convaincu que ce que l'équipe a fait en série n'est qu'une infime partie de ce qu'il peut faire en termes de chrono. Je pense que ça peut aller beaucoup plus vite, même chercher ce record de France. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu le montrer, parce que là, je pense que toute l'équipe était hyper bien. J'ai vu à l'échauffement, on était super bien, on était prêts pour ces championnats, et pas pouvoir courir, c'est vraiment dommage.
Christophe Lemaître sur le 4x400 mètres. Aujourd'hui, c'était les séries en attendant les finales de demain. Ça s'est plutôt bien passé pour les Français avec Ludwig Vaillant, avec Jordier. Ils seront en finale demain. Ils ont été repêchés au temps. Beaucoup moins bien pour les Françaises, 7e de leur série et donc éliminées.
Alors, cette qualification pour la finale masculine du 4x400 sauve une journée française. Au-delà du relais 4x100, journée française catastrophique.
Oui, c'est le mot, parce que si l'on regarde par exemple les séries du 100 mètres haies, il y avait 3 Françaises engagées. Solène Dama, qui n'était pas remise de l'heptathlon qu'elle a terminé il y a 2 jours à la 14e place. Elle n'avait tellement pas de jambes qu'elle n'a même pas passé la première haie. Fanny Queneau également éliminée dans ces séries. Et puis Laura Valette, 13 secondes 47 à 6 dixièmes, la jeune Française, 22 ans, à 6 dixièmes aujourd'hui de son record personnel. Eh bien, elle était en détresse après la ligne d'arriver. On l'écoute, Laura Valette.
Je fais beaucoup de fautes. Je suis vraiment en forme, donc je tape les haies. C'est dommage. Je fais perdre des dixièmes et des dixièmes et du coup, je me qualifie pas. C'est le choix du sport, mais c'est dur quand même parce que je me suis vraiment entraînée dur. J'avais tout un staff derrière moi et tout. Et là, sur le coup, de savoir que je vais même pas en demi-finale alors que je pense que c'était vraiment dans mes cordes, ouais, c'est un coup dur. Comme on a dit avec mon entraîneur, l'apprentissage est un peu terminé. Maintenant, j'aimerais vraiment passer un cap. Et aujourd'hui, je pense que j'avais vraiment les jambes pour le faire. Et malheureusement, c'est pas passé. Donc voilà, va falloir retourner au travail et voir pourquoi j'ai fait des petites fautes comme ça sur cette série.
Au triple saut, Rougui Diallo, où la Française termine à la 10e place, très très loin de la Vénézuélienne Yulimar Rojas, qui garde ce titre de championne du monde avec 15m37. Et puis 3 Françaises éliminées également aux qualifications du saut en longueur, dont Héloïse Le Sueur.
Christophe, on termine avec la projection pour cette ultime journée de compétition demain, avec de belles cartes à jouer pour les athlètes africains notamment.
Oui, avec puisqu'on parle de longueur, Ezebrum, la Nigériane, elle a 23 ans, elle s'est qualifiée sur un seul saut aujourd'hui, 6m89. Elle avait terminé 5e des JO 2016, la championne d'Afrique, et demain elle a un bon espoir de médaille. En attendant, elle est contente de cette qualification.
J'étais quand même un petit peu nerveuse en début de concours, mais j'ai surtout essayé de ne pas douter de moi. Je suis vraiment très excitée de me qualifier pour cette finale. C'est ce que j'espérais, me qualifier dès ma première tentative. J'ai réussi et ça me rend heureuse. Mon objectif maintenant, c'est d'améliorer mon record personnel et pourquoi pas d'être en mesure de monter sur le podium.
C'est Brume au micro d'Antoine Grenier. Dernière carte africaine aussi pour demain. Au lancer du javelot, on retrouve le Kenyan que vous connaissez, Julius Yego, qui était champion du monde il y a 4 ans à Pékin, vice-champion olympique à Rio, et qui s'est qualifié pour la finale de demain. Il espère retrouver le très très haut niveau après un passage difficile.
Et pour être tout à fait complet, n'oublions pas de signaler que le marathon masculin est en cours. Comme les dames, il est disputé en pleine nuit pour tenter de limiter les effets de la chaleur, en espérant cette fois qu'il fasse moins de dégâts. Merci beaucoup Christophe Jousset avec, comme toujours, vous l'avez souligné, Antoine Grenier pour les interviews. À demain pour la dernière journée donc de ces mondiaux et le bilan des 10 jours de compétition. Le football à présent avec notre traditionnelle séquence européenne et d'abord l'Espagne où le Real Madrid est disputé cet après-midi un match au sommet contre Grenade. Oui, oui, Grenade, surprenant deuxième de Liga à l'entame de la 8e journée. Les Merengues ont dominé puis flanché avant de gagner 4-2 grâce notamment à Eden Hazard, enfin buteur sous ses nouvelles couleurs. De quoi rassurer ses supporters pourtant acquis à sa cause, comme a pu le constater notre correspondant Pierre Chaperon.
À l'énoncé de la composition des équipes, son nom est scandé en dernier par le speaker du stade. Place dévolue, en règle générale, à la star de l'équipe. Un privilège qu'avait avant lui Raúl ou Cristiano Ronaldo. Comme l'Espagnol ou le Portugais, il porte le numéro 7, tellement symbolique, du côté de Santiago Bernabéu. Oui, mais voilà, Eden Hazard tarde jusque-là à confirmer. Avant la rencontre, Alberto, comme bon nombre de supporters, était dubitatif quant aux états de service de l'ancien joueur de Chelsea et Lille.
Là, tout de suite, le transfert de Hazard ressemble à un désastre. Mais nous espérons que la roue tourne, qu'il soit le même joueur qu'il était à Chelsea. Je crois que le problème est physique, il n'est pas en forme. Pour le moment, ça ne fonctionne pas, mais je pense que ça va venir, parce que c'est un grand joueur.
En dessous, encore une fois, de son niveau la semaine dernière contre l'Atlético de Madrid et en Ligue des Champions face à Bruges, le Belge peine à convaincre. Son embonpoint qui a fait les choux gras de la presse, mais aussi sa blessure n'ont pas facilité l'intégration de celui qui avait attiré plus de 60 000 spectateurs à Bernabéu lors de sa présentation en juin dernier. Eden Hazard aura donc attendu le 5 octobre pour marquer son premier but et faire une passe décisive. Le déclic, dans tous les cas, Zinedine Zidane, son entraîneur, en est certain.
Bien sûr, clairement, parce qu'en plus, il avait besoin de ça. Je pense que le match, le fait de se remettre en forme, il l'avait fait. Je pense qu'il était mieux. Un joueur comme lui, il a toujours besoin de pouvoir justement montrer ses qualités. Ses qualités, c'est de faire des passes et de marquer des buts. Donc aujourd'hui, il a fait les deux. Donc je suis content pour lui. Il est content. Il était surtout super content. Et les autres l'ont été pour lui. C'est bien aussi.
Oui, mais voilà, le Belge a encore du mal à combiner avec ses coéquipiers. Son entente est difficile avec Karim Benzema ou Gareth Bale, comme si Eden Hazard avait du mal à comprendre pour le moment le jeu de ses coéquipiers. Pas une raison pour autant de s'inquiéter pour le journaliste de la Cadena Ser, Anton Meana. Pour lui, ce but, cette passe décisive, arrive au meilleur moment pour Eden Hazard.
Je crois que Hazard avait besoin de marquer un but. Les gens aiment le joueur, on le voit à chaque match. On attend beaucoup de lui. Le Bernabéu a besoin d'espoir parce que les supporters savent que c'est un des rares à le faire rêver cette saison. Que c'est un joueur différent, qui joue en profondeur, qui va marquer des buts, faire des dribbles, qui a une manière de bouger, qui paraît très lente, mais qui au final va tromper la défense. Et oui, je crois qu'aujourd'hui, ce premier but va lui changer les idées. Il brise la glace. Et tout ça, ça arrive dans un moment clé. Au mois d'octobre, avec des matchs à Istanbul, Majorque, et surtout le Classico contre le Barça, maintenant les gens vont avoir un autre regard sur lui.
En effet, le Belge revient au meilleur moment, le plus important pour un club comme le Real, celui qui décide de la suite de la saison. Reste que la marge de progression du Belge est encore grande avant de s'imposer comme un leader technique de l'équipe. Bref, ce pourquoi Zinedine Zidane l'a fait venir dans la capitale espagnole. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Et malgré la réussite du Real d'Eden Hazard et consort, Grenade reste deuxième provisoirement du classement, mais plus que jamais sous la menace de l'Atlético et du Barça qui joueront demain. L'Angleterre avec la 8e journée de Première Ligue. Liverpool continue son sans faute en dominant Leicester à l'arraché 2-1 avec une ouverture du score signée Sadio Mané, le Sénégalais également à l'origine du penalty obtenu par les Reds en toute fin de match. Mais le fait marquant de cette journée, c'est la grave blessure d'Hugo Lloris avec Tottenham dès le début du déplacement à Brighton, qu'il a emporté 3-0. Le gardien de l'équipe de France s'est luxé le coude après s'être élevé pour capter un ballon. Il est forfait pour les deux matchs des éliminatoires de l'Euro 2020 en Islande et face à la Turquie. Le sélectionneur Didier Deschamps a décidé de le remplacer numériquement par le Lillois Mike Maignan. Enchaînement tout trouvé pour la Ligue 1 et la suite de la 9e journée. Rapidement, le PSG s'est imposé sans forcer sur Angers 4-0 avec des contributions du Sénégalais Idrissa Gueye et de Neymar. Les Parisiens comptent 2 points d'avance sur Nantes, vainqueur de Nice 1-0. Le football en Afrique, et pour cela je cède la parole à Eric Chauvin. Bonsoir Eric.
Bonsoir Christophe.
Une rencontre avec le successeur de Florent Ibengué à la tête des Léopards, Christian Tsengui-Biembe.
Oui, il est arrivé juste après l'élimination de la République démocratique du Congo par Madagascar en 8e de finale de la CAN 2019. Christian Tsengui-Biembe est un homme du Serail, DTN à la FECOFA et en charge des moins de 23 ans. Il doit encore faire ses preuves pour valider sa nomination au poste de sélectionneur en remplacement d'un Ibengué qui a marqué de son empreinte les 5 ans qu'il a passé à la tête de l'équipe nationale. C'est bien parti avec une victoire en République centrafricaine, 2-0 en éliminatoire du CHAN, mais c'est en novembre avec le coup d'envoi des qualifications pour la CAN 2021 qu'il va passer un vrai test. Et pour préparer la réception du Gabon dans un mois, la RDC s'apprête à jouer 2 matchs amicaux face à des adversaires prestigieux, l'Algérie, championne d'Afrique, et la Côte d'Ivoire. Kaboulo Mona Kaboulo a rencontré Christian Tsengui-Biembe juste avant son départ pour Alger, un Congolais à la place d'un autre Congolais. Aujourd'hui, cela semble normal après une finale de CAN où les deux équipes avaient des sélectionneurs locaux, Djamel Belmadi pour l'Algérie et Aliou Cissé pour le Sénégal, mais ce n'était pas encore le cas quand Florent Ibengué a été nommé Christian Tsengui-Biembe.
C'est dans la continuité et la logique de la fédération, en l'occurrence le président Constant Marie, c'est lui qui a, je pense, qui a un peu initié le choix des locaux. Ça a été suivi avec Keshi et Florent donc a été un des grands précurseurs de cette politique. Il a donné l'exemple, je pense, et l'idée à beaucoup de fédérations pour qu'on puisse faire confiance aux locaux. J'espère que ça va continuer comme ça.
Vous êtes là depuis pratiquement 2 mois. Comment ont été vos premières semaines à la tête des Léopards ?
Ça n'a pas changé grand-chose parce que bon, je suis déjà entraîneur en U23 et directeur technique. En plus, bon, j'ai évolué assez longtemps aux alentours des équipes A, puisque j'ai travaillé aussi pour aider certains entraîneurs, en l'occurrence Monsieur Claude Leroy, quand il était là en 2003. Ça ne m'a pas vraiment dépaysé, donc c'était simplement une autre tâche qui s'offre à nous, au staff que nous avons mis en place.
Votre première sortie officielle a été ponctuée par une victoire devant la République centrafricaine pour le compte du CHAN. Est-ce un bon départ ?
Tout à fait. Dans la mesure où on a besoin de motivation. Et pour le groupe, c'est important de commencer avec une victoire. C'est toujours bon pour le moral, dit-on. Mais c'est aussi bon pour sceller le groupe et surtout pour prévoir l'avenir avec plus de sérénité. Ça diminue la pression, ça augmente la confiance et c'est bon aussi pour l'avenir.
Christian, dans quelques jours, les Léopards vont se mesurer à des adversaires costauds. Les Fennecs d'Algérie, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Sous quel signe placez-vous ces deux matchs ?
Là, on est en observation. On va expérimenter un nouveau groupe, une nouvelle façon de travailler. Je pars du principe que dans l'amical, on ne perd pas, on gagne et on apprend. Donc ça va nous servir pour le prochain match contre le Gabon en tout cas. Et ce sont des très très bons rencontres qui vont nous donner beaucoup d'indications. Et c'est avec ça que nous pouvons progresser. Je pense que c'est une très bonne idée d'avoir accepté ces deux matchs.
Vous rappelez les anciens comme Dieu merci Mbokani, Neskens Kebano, Imbula est là, Bolassi est là et vous intégrez des jeunes comme Mouleka, comme Moutoussami de Nantes, comme Kayembe d'Anderlecht, et vous jouez à l'équilibriste.
Non, c'est-à-dire on essaie d'avoir un bon 11. On essaie d'avoir un bon 11 avec une dynamique, avec des gens qui ont envie de jouer. Nous avons eu à contacter chacun de ces joueurs. Ils ont exprimé, disons, une envie très très importante de pouvoir participer à ce nouveau challenge. Les anciens, ils sont très en forme pour le moment et il s'agit donc de pouvoir les mettre à l'épreuve.
Vous êtes arrivé à discuter un peu avec le sortant, Florent Ibengué ?
Oui, on a eu à échanger, mais pas longtemps. C'est un ami, on se connaît depuis 25 ans, donc c'est pas un souci de que lui prenne un coup de fil mes nouvelles ou bien que moi je puisse l'appeler pour avoir des informations ou autre. On a échangé tout au début quand j'ai commencé à faire la sélection du Chan et par après on s'est appelé, on s'est croisé, donc il y a vraiment pas de problème avec lui. Il m'a dit qu'il est ouvert et qu'il serait disponible. Bien sûr que j'appellerai Florent quand il s'agira de l'appeler.
Quelle est votre vision pour la relance de l'équipe nationale?
Nous on veut avoir, disons qu'une équipe qui a de l'ambition. On veut une équipe qui a foi en elle et une équipe qui veut travailler. On va essayer d'intégrer beaucoup de disciplines et une envie d'aller jusqu'au bout, puis essayer de faire respecter les principes de jeu que nous allons mettre en place. Pas forcément s'adapter à l'adversaire, on va essayer de jouer notre jeu et on essaie de travailler de manière assez professionnelle en tout cas. Et j'espère que cette fois-ci, on ira jusqu'au bout.
Christian Tsengui Bimbe avec Kaboulo, Moana Kaboulo, Algérie, RDC, Christophe, c'est jeudi prochain à Alger, 3 jours avant le match Côte d'Ivoire RDC à Amiens en Picardie.
15 jours déjà de Coupe du Monde de rugby au Japon et à l'heure qu'il est, une seule équipe a formellement la garantie de poursuivre l'aventure au-delà de la phase de poule, c'est l'Angleterre. Pour les autres ténors, ce n'est donc pas encore fait, mais la situation se décante petit à petit. Un petit point s'impose avec notre envoyé spécial en terre nippone, Cédric de Oliveira. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Christophe.
3 matchs avaient lieu aujourd'hui, notamment Japon-Samoa, avec encore une victoire pour le pays organisateur.
Oui, après leur exploit contre l'Irlande la semaine dernière, on attendait de savoir si les Brave Blossoms aller pouvoir le digérer. Eh bien, visiblement, tout va bien pour eux. 3e victoire en 3 matchs pour les Nippons qui ont su se montrer sérieux face aux Samoa. Victoire 38-19 dans un match qu'ils ont maîtrisé de bout en bout. Le Japon qui a eu le mérite d'insister en fin de rencontre pour inscrire dans le temps additionnel un 4e essai, ce qui signifie un point en plus de ceux attribués en 4 victoires. L'essai de Kotaro Matsushima qui a confirmé son statut de nouvelle coqueluche des supporters nippons au classement. Le Japon reprend la tête de la poule A devant l'Irlande qui a repris ses esprits en passant ses nerfs sur la Russie 35-0 cette semaine. Tout devrait se jouer pour le Japon face à l'Écosse dimanche prochain.
Et de son côté, l'Afrique du Sud s'est rapprochée également des quarts de finale.
Les Springboks qui avaient un match décisif face à l'Italie ce vendredi et qui l'ont survolé, victoire 49-3 avec 7 essais dont 2 pour l'ailier de Toulouse Cheslin Colby qui a encore rayonné lors de cette rencontre. L'Afrique du Sud qui a bénéficié aussi de l'exclusion du pilier italien Andrea Lovotti, auteur d'un plaquage cathédrale. C'est lorsque vous retournez un adversaire la tête à l'envers sur le sol à 14 juste avant la pause. C'était beaucoup trop compliqué pour l'Italie. L'Afrique du Sud du sélectionneur Rassi Erasmus était trop forte, notamment physiquement.
C'était loin d'être parfait aujourd'hui. Tactiquement et techniquement, c'est vrai qu'on a commis des erreurs, mais les joueurs ont au moins répondu physiquement sur ce match et c'est ce qu'on voulait. Si on veut gagner cette Coupe du Monde, on a besoin de cet impact physique. On a pris conscience de ça plus tôt dans la saison. Et pour ce match précis face à l'Italie, on leur a fait mal grâce à cette intensité qui a toujours été un de nos atouts. On a été très constant par rapport à ça lors des 80 minutes et j'en suis particulièrement fier.
Prochain match mardi à Kobe face au Canada qui ressemble à une formalité pour les Box qui peuvent espérer se qualifier pour les quarts de finale. En revanche, pour l'Italie, ça sent la fin de parcours. Elle va devoir défier les tout-puissants All Blacks samedi prochain. Il faudra un authentique exploit pour tenter de brouiller les cartes dans ce groupe B.
Dans le groupe D, cette fois, Cédric, l'Australie a, elle, bien rebondi après sa défaite face au Pays de Galles la semaine dernière.
Les Wallabies qui ont logiquement battu l'Uruguay 45-10 avec là encore 7 essais. Michael Checa, le sélectionneur, avait pourtant décidé d'aligner une équipe remaniée, mais l'Australie a assuré l'essentiel. Elle prend la tête du groupe en attendant que le Pays de Galles dispute ses 2 dernières rencontres, justement face à l'Uruguay et aux îles Fidji. A priori, les Gallois et les Australiens semblent bien placés pour obtenir les 2 places qualificatives pour les quarts de finale.
2 sélections qui devraient croiser l'Angleterre, c'est une certitude. Le 15 de la Rose est la première équipe qualifiée. Elle domine largement le groupe C, celui du 15 de France.
Le rouleau compresseur anglais qui n'a laissé aucune chance à l'Argentine malgré un début de match accroché. Mais le tournant de cette rencontre a eu lieu à la 18e minute après l'exclusion du 2e ligne Lavanini pour un plaquage dangereux sur Owen Farrell. Un nouveau geste dangereux donc lors de ce mondial à 14 contre 15. C'était quasiment mission impossible pour les Pumas. 15-3 à la pause et finalement 39-10, 6 essais à 1. 3e victoire bonifiée en 3 rencontres pour les Anglais, ce qui a une conséquence, Christophe. Le 15 de France n'a désormais besoin que d'un match nul face aux Tonga pour assurer sa qualification pour les quarts de finale de ce mondial.
Merci Cédric. France Tonga demain à Kumamoto, 7h45, temps universel. On termine avec une question qui ne manquera pas de faire réagir les auditeurs sénégalais. Le sport dans votre pays est-il mal en point ? Oui, à en croire l'un de ses acteurs, Mathieu Chupin. Ce Français, le directeur délégué de l'un des grands clubs de foot au Sénégal, l'AS Dakar Sacré-Cœur. Son expérience lui fait pousser un cri d'alarme. Le sport sénégalais est sous-financé et totalement délaissé par l'État. Mathieu Chupin, au micro d'Éric Mamout, liste les nombreux problèmes sur place.
Au plan local, on est dans une situation qui est très très difficile. À titre d'exemple, la Ligue sénégalaise de football professionnel est en faillite, n'a plus de sponsors. En termes de droits TV, on est dans une impasse totale avec un groupe chinois qui a signé il y a un an, mais rien n'est mis en place. Les stades sont totalement vétustes. On n'a plus de stade. Le stade d'Emba Diop est fermé depuis 2 ans. On n'a rien pour développer un football professionnel. Et pourtant, pour moi, il y a la place. On le voit bien avec la lutte qui réunit du monde sur les grands combats. Il y aurait de la place aujourd'hui pour des grands matchs de football professionnel localement.
Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement ?
Tout doit partir du chef de l'État qui, à mon sens, doit décréter, ça serait peut-être une première en Afrique en tout cas, que le sport est une priorité nationale. Et à partir de là, le décliner d'une multitude de façons sur le plan de l'éducation, de la santé publique, du développement économique et de la notoriété, de la diplomatie. Alors après, les chantiers sont multiples, il y a les textes. Les textes du sport, d'une manière générale, doivent être repris, complètement adaptés à la réalité aujourd'hui. Deuxièmement, il y a la question de la gestion des infrastructures. L'État n'est plus en mesure aujourd'hui de gérer les infrastructures sportives. À titre d'exemple, le budget du plus grand stade, le stade Léopold Sédar Senghor, c'est 100 000 euros, 60 millions de francs CFA. C'est le budget qui suffira à peine pour un mois pour gérer une enceinte de ce type. Donc, il faut une vraie révolution. Et on a peu de temps puisqu'on est organisateur des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022.
Vous parlez surtout du football, mais c'est peut-être pire encore pour les autres sports.
Mais bien sûr, le potentiel sportif sénégalais dans tous les sports est extraordinaire. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est de temps en temps un miracle qui fait qu'on a un joueur en NBA, qu'on a, etc. Et le basket, on l'a vu dernièrement encore avec l'équipe nationale. C'est, je dirais, les préparations sont faites d'une façon qui n'a rien à voir avec celle des grandes équipes aujourd'hui qui peuvent espérer faire des performances mondiales. On est très loin de tout ça aujourd'hui. Il faut s'y mettre, il faut qu'on se mette vraiment à travailler pour qu'on obtienne des performances régulièrement.
Là, la perspective de ces JOJ 2022, ça doit être le déclic.
Ça doit être le déclic. Pour aussi, j'en ai pas parlé, l'implication du secteur privé, c'est capital. Aujourd'hui, les clubs, leur plus gros sponsor, ça peut être de l'ordre de 30 000 euros. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse sur 30 000 euros quand on a un budget qui peut aller jusqu'à 1 500 000 euros ? On ne peut pas s'en sortir.
Les fédérations sont abandonnées elles-mêmes ?
Aujourd'hui, il faut des fédérations où on a d'un côté des dirigeants élus et de l'autre côté des cadres du sport. Et ce qui est un peu regrettable, c'est de voir qu'à travers le monde aussi, au-delà des athlètes, on a des Sénégalais qui performent dans ce domaine-là. Des gens comme Bounandia, qui est l'un des plus gros agents de basket en NBA. Bien sûr, Jamin Faye, qui est aujourd'hui en train d'accompagner le ministère des Sports d'Arabie Saoudite pour une réforme complète, qui a fait un travail extraordinaire en Mauritanie. Ces gens-là sont à l'extérieur. Il serait peut-être temps aussi qu'on les fasse revenir ici au pays pour qu'ils puissent mettre leur expertise. Je pense à Pape Diouf, ancien président de Marseille. Il y a des gens de qualité, il faut les faire revenir pour qu'on puisse vraiment passer à un nouveau chapitre du sport sénégalais.
Là, les autres fédérations n'ont pas du tout de moyens ?
Les autres fédérations ont des moyens dérisoires. C'est catastrophique. Elles attendent systématiquement une subvention éventuelle pour acheter des billets, pour déplacer des athlètes, etc. Le budget du sport sénégalais est ridicule. Ridicule, c'est, je crois, 5-6 milliards peut-être de francs CFA sur un budget de 3-4 000 milliards. C'est insignifiant. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y ait encore aujourd'hui la considération et la prise de conscience également que le sport peut jouer un rôle très important dans le développement de notre pays.
Dans ces conditions, est-ce que le Sénégal peut réussir cette organisation des JOJ 2022 ?
Le Sénégal est aussi le champion de la mobilisation, a une capacité exceptionnelle à se mobiliser autour d'un objectif. Mais moi, je pense qu'il ne faut surtout pas qu'on réussisse juste à faire des beaux stades, à les remplir les JO, et puis que 2 ans après, ces stades soient vétustes et qu'il n'y ait surtout rien eu en termes de changement de politique sportive au Sénégal. C'est ça le risque aujourd'hui. Et j'espère vraiment qu'on va être entendu, que des acteurs du privé comme Souleymane Baye, comme nous, comme Génération Foot qui fait des choses extraordinaires, Djamba aussi. Je voudrais qu'on soit davantage impliqué dans la réflexion actuelle pour construire ce projet 2022 et qui permette vraiment de faire cette transition pour le sport sénégalais d'une façon générale.
Mathieu Chupin de l'AS Dakar, Sacré-Cœur, Mondial Sport, c'est terminé pour ce soir. Merci à Fabrice Violet pour la réalisation. Dans un instant, 24 heures en France, Loïc Bussière.